Des géants de froid. Les glaciers sont très anciens, fascinants et sont aujourd'hui menacés de disparition. Mais comment naît un glacier et évolue-t-il au fil du temps? Jean Saraméa, historien géographe retraité, répond à ces questions au micro de Guillaume Cangiano.
Bonjour à tous, bonjour Jean Saraméa.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de comment évolue un glacier. Comment il vit, comment il naît, comment il meurt. Jean, pouvez-vous nous expliquer tout cela?
Alors, les géographes, dans leur spécialité géomorphologique, s'intéressent beaucoup à la montagne, et pas seulement aux roches, mais également aux glaciers. Il faut savoir que l'université de Grenoble est réputée dans toute l'Europe pour son domaine de glaciologie. Ses experts glaciologues, qui ne sont pas tous des géographes, il y a différentes spécialités, pas uniquement pour prévoir les risques d'avalanche, mais aussi pour étudier ce qu'on appelle le bilan de masse de tous les glaciers, des Écrins, de Belle Donne et de la Savoie. Juste un chiffre, le massif des Écrins, c'est 30% à l'heure actuelle des glaciers des Alpes françaises. L'avenir semble très sombre dans ce domaine, puisque on pense que d'ici 10-15 ans, tous les glaciers de versant sud et même une partie des glaciers de versant nord, parce que l'exposition joue un très grand rôle, auront disparu à moins de 3 400-3 500 mètres. Donc il faut imaginer le massif des Agneaux au sud de Montier, sans glaciers, sinon quelques plaques en versant nord. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de la Terre. On sait par exemple que pendant l'optimum climatique de l'Empire romain et pendant l'optimum climatique du Moyen-Âge, les glaciers avaient pas totalement disparu, mais avaient énormément régressé, que ce soit en altitude, que ce soit en épaisseur, évidemment. Alors, dans ce massif des Écrins, si proche de nous, il y a les glaciers de plateau. C'est très joli, vu de loin, ces immenses dragons blancs, comme disait le géographe Raoul Blanchard, qui était né à Albertville. C'est les glaciers du Mont-Blanc, par exemple, ou de Dormillouse. Vous avez les glaciers de Cirque, le plus typique, qui est en train de disparaître même en versant nord, c'est le glacier d'Arcine, derrière sa moraine et avec son lac de fonte. Vous avez des simples névés qui ne sont pas formés d'une glace épaisse, mais qui restent une partie de la saison d'été. C'est le massif de Combeno qui en est, par exemple, l'exemple. Et puis, vous avez les langues glaciaires qui descendent plus ou moins bas. C'est le glacier blanc, c'est le râteau, c'est certains glaciers des Agneaux. Le glacier noir, qui est ainsi appelé parce qu'il est sous une épaisseur de rochers et de terre, ce qu'on appelle des moraines, qui font qu'on ne voit plus de glace, tout au moins dans l'essentiel de la partie inférieure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un glacier, rappelons, ce n'est pas de la neige, c'est une neige très ancienne qui s'est transformée physiquement en glace, en se compactant. Schématiquement, évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un glacier va survivre au réchauffement climatique ou va fondre plus vite? Il y a toute une série de variables. Il y a d'abord l'importance de la couche de neige pendant l'hiver et le printemps. Si cette couche de neige est importante et durable, disons jusque fin juillet par exemple, parle pour les altitudes, plus de 3000 mètres, hein, et même 3500. La neige a une albédo extrêmement forte, ce qu'a moins la glace. Alors, l'albédo, c'est l'énergie solaire qui est renvoyée dans l'atmosphère. La neige renvoie l'essentiel, souvent plus de 90% de l'énergie solaire qui arrive au sol. On le sait lorsqu'on prend un bon coup de soleil sur la neige en hiver ou au printemps. Alors, s'il y a eu très peu de neige, si la neige fond très tôt, les glaciers ne sont plus protégés et vont se mettre à fondre beaucoup plus vite à l'arrivée de l'air doux ou chaud. Évidemment, la limite pluie-neige au printemps et pendant l'été, parce qu'il peut y avoir au-delà de 3000-3005 des nouvelle couche de neige lors des orages. C'est ce qui ne s'est pas produit, ou presque pas, pendant l'été 2022, où on voyait la météorologie qui disait isotherme 0 degré à 4000 ou 4200 mètres, c'est-à-dire au-dessus du massif des Écrins. Dans ce cas-là, c'était de la pluie qui arrivait sur la glace et qui accélérait la fonte. Donc, on a mesuré que cette limite pluie-neige avait augmenté en altitude de 100 mètres en 20 ans. Ça peut paraître faible, mais pour les langues glaciaires ou même les glaciers de plateau, ça peut les impacter directement. Et dans ce cas-là, le bilan de masse ne se reconstitue pas. Ensuite, l'exposition. Il est évident qu'un glacier en versant nord voit très peu le soleil, ou moins longtemps qu'un glacier en versant sud. Donc la période de fonte estivale va être beaucoup plus courte en versant nord qu'en versant sud. Le glacier blanc si célèbre, au nord de Valouise, est en versant sud, majoritairement. Ensuite, il y a la durée d'ablation. L'ablation, c'est la fonte, la perte de masse. Cette durée augmente. Elle a augmenté de 3 semaines sur les 20 dernières années. Et si c'est une langue glaciaire, c'est-à-dire un glacier de vallée, si le glacier se morcelle, la partie inférieure de la langue glaciaire n'est plus alimentée par la partie supérieure. Et dans ce cas-là, la partie inférieure est condamnée à fondre totalement et à disparaître en quelques années. Ensuite, certains articles oublient de dire que la vie d'un glacier dépend de la quantité des précipitations. Si on a beaucoup d'années sèches, il y a peu de neige en altitude et donc peu de glace se forme. Par contre, s'il y a de nombreuses années très humides avec beaucoup de neige l'hiver, ça regonfle, entre guillemets, les glaciers. Ensuite, il y a la vitesse d'écoulement qui dépend de la pente. Si un glacier s'écoule très lentement, il peut se conserver plus longtemps. Si l'écoulement est rapide, parce que la pente est très forte, ben évidemment, il atteint les zones de température douce ou chaude de l'été plus vite et plus rapidement. Ensuite, il y a les pluies de sable, les pluies sales, qui ont lieu, disons, de mars à mai. Pas tous les ans. Cette année, il n'y en a eu quasiment pas. Mais en mars 2022, il y en a eu beaucoup. Et ces pluies de poussière, ces pluies de sable, c'est plutôt de la poussière, très colorées, qui arrivent du Sahara et de l'Afrique du Nord, diminuent l'effet d'albédo, salissent, entre guillemets, la surface de la neige et de la glace, qui vont se mettre à fondre beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. Cet effet d'albédo est absolument fondamental. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, un caillou un peu sombre, il s'enfonce très vite dans la neige parce qu'il capte la chaleur solaire et donc il fait fondre la neige qui est autour de lui. C'est la même chose pour la glace. En 2022, l'été 2022 a été exceptionnellement long et chaud avec plusieurs périodes de canicule et là, les mesures sont terrible. La perte de masse des glaciers a été extrêmement forte dans toutes les Alpes, avec des éboulements, avec une fragilisation, y compris des parois, parce que y a moins de glace en altitude. Mais il faut bien comprendre que chaque glacier a sa vie. Chaque glacier a son mécanisme, même si tous les mécanismes sont comparables, mais chaque glacier va réagir plus ou moins fortement, plus ou moins rapidement à tous ces mécanismes qu'on vient d'énumérer. Alors certains scientifiques disent, et on le lit dans des articles, que bon, on peut protéger les glaciers avec des bâches. Bon, ça s'est fait un petit peu en Suisse, c'est extrêmement coûteux, ça semble peu efficace en définitive. D'autres ont dit, il faut mettre des dispositifs, surtout pendant le printemps et l'été, pour couvrir les glaciers de neige artificielle. Il faut voir la notion d'échelle. Ce serait extrêmement long, ça prendrait beaucoup de temps, extrêmement coûteux, et d'après les mesures, il faut voir quand même le volume de glace que représente un glacier, que de passer de la neige à la glace, c'est schématiquement de 10 à 1. Donc cela demanderait quelque chose d'énorme et sans doute très peu efficace. Voilà, donc, d'après les prévisions, tous les glaciers, surtout ceux en versant sud, à moins de 3500 mètres, sont condamnés dans les 10-15 ans qui viennent. Ce qui oblige, et c'est déjà le cas, les stations de sport d'été, de ski d'été, je pense à Val Thorens, je pense à Tignes, je pense aux Deux Alpes, c'est la plus proche, à modifier évidemment leur calendrier. Certains télésièges ont arrêté. Quand le glacier perd beaucoup de masse, la pente est plus forte. Il faut s'arrêter plus tôt en saison, début juillet quelquefois. Par contre, du ski de printemps, mai-juin, ça reste possible, mais ce n'est pas toujours le moment des vacances. Et cela signifie qu'il faut prendre beaucoup plus de précautions, parce que les éboulements, surtout s'il y a des falaises, s'il y a des parois, les éboulements sont beaucoup plus risqués, et pas uniquement pour les alpinistes. Donc, voilà quelques rappels. Mais encore une fois, nous avons à la fois par l'INRAE, qui ne s'occupe pas que de botanique, qui s'occupe aussi de tout l'environnement. Ce sont des scientifiques spécialisés. Et par cet institut de recherche de géosciences et de glaciologie de Grenoble, on a d'excellents spécialistes qui auscultent les glaciers et qui peuvent donner beaucoup de renseignements très utiles au domaine du tourisme et aux gestionnaires des loisirs et de l'espace.
Merci Jean.